la dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Ledoux et Boris Spino. Prise de son assurée ce soir par Pascal Bénard, réalisation Assia Khalid. Ce soir, Hugo Cassavetti et Olivier Lam se font face à notre affiche Slow Dive, de Slow Dive, chez Dead Oceans, Pleasure, de Feist, chez Polydor et Async, de Ryuichi Sakamoto, chez Milan. Vers 21h20, Xavier Martini nous entraînera dans le petit salon pour parler des grands festivals musicaux. Et puis des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour voir un film de la rétrospective Frédéric Wiseman jusqu'au 31 mai à la Cinémathèque de Toulouse. Et voici enfin, c'est moi qui le dis, le retour sur disque de Slow Dive. Je sais que je fais partie d'une minorité qui a écouté et réécouté en boucle depuis leur sortie au début des années 90 que des disques du groupe et puis des morceaux comme Catch the Breeze ou When the Sun Hits sont restés pour moi absolument indémodables. Sacrifiés sur l'autel de la Britpop avec le succès de Blur, Oasis et autres groupes qui ne m'ont jamais beaucoup intéressé, je dois dire. Slow Dive est revenu en 2014 devant 25 000 personnes au Festival Primavera de Barcelone. Depuis, ils ont pris le temps pour écrire et enregistrer ce nouvel album intitulé Slow Dive. Comme s'il fallait réinscrire le nom du groupe dans le panthéon de la musique, c'est chose faite en 46 minutes et 8 morceaux. On écoute un extrait de ce disque, No Longer Making Time. Thank you. Slowdive, c'est le titre du nouveau disque du groupe Slowdive. Très longtemps, combien d'années avant, depuis le...
22,
voilà Hugo Cassavetti. Alors sur Slowdive, Hugo.
Slowdive.
Et sur ce disque surtout, ce qui nous intéresse ce soir.
Sans dire voilà.
Sans dire voilà.
Slowdive, déjà, c'est un cas très particulier. Ce groupe vous est très cher, Arnaud.
J'assume.
Il est très cher à quelques personnes, mais je pense que leur... L'énorme atout de Slowdive, c'est d'abord ne jamais avoir été énorme à l'époque. Je dis ça dans le contexte où Jesus and Mary Chain, Ride qui reviennent, qui ont eu un impact beaucoup plus fort à l'époque. Donc c'est beaucoup plus souterrain. Je dirais aussi que Slowdive, ces trois albums au début des années 90, entre 91 et 95, c'est un quintet de Reading, qui déjà sur trois albums, a évolué, quoi. Ce qui est, et c'est arrêté. Et ce n'est pas arrêté pour ne rien faire d'autre ou faire autre chose et juste revenir où ils en étaient. C'est que finalement, ça s'est mué dans la suite logique du troisième album Pygmalion qui laissait un peu tomber les guitares vers un groupe qui, ils avaient surpris tout le monde. C'est devenu Mojave 3, qui était le groupe de Neil Halstead surtout, avec toujours Rachel Goswell, où tout à coup, ils s'ouvraient au moment où on pensait qu'ils allaient aller partir vers des choses peut-être un peu plus ambiantes, électroniques, revenaient au contraire vers une forme quasi de pré-américaine. De chercher des chansons et puis de lentement revenir vers une forme de sans jamais basculer dans une pop évidente mais mélodique un peu plus qui rejoignait ce qui faisait donc à travers pendant leur éclipse, ils ont continué, leur progression. Et ce qui est intéressant en les retrouvant, donc
dans un désintérêt assez général, hein. Quand même.
Oui, mais bah, comme ils avaient avant, ils restaient près dans la même, pas du tout, on va pas parler de ligue, mais en tout cas, une sphère comme ça, ce qui permet au groupe anglo-saxon, c'est d'exister dans le monde entier comme ça, par cette de sphère parallèle, de suffisamment de gens qui les suivent pour faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est qui est précieux. Et ils sont revenus, moi je les avais vus à la Route du Rock, ils se déroulaient, avec cette chose étonnante, quoi, à laquelle on assiste maintenant, des groupes qui avant remplissaient à peine des petites salles pour initier, qui se retrouvent sur des stades devant des foules, quoi, de 20 000 personnes, comme si c'était un monument qui revenait. Et c'était assez surprenant, quoi, bluffant. Ils tenaient, on peut pas dire que ce soit des bêtes de scène, on va dire, par leur présence. Mais il y a quelque chose. Ils imposaient, surtout qu'à l'époque, je crois que je les avais vus. Je me demande, c'était pas l'année où il y avait des groupes comme Temples et tout ça, qui sont de très bons faiseurs de choses fabriquées à l'ancienne. Et eux arrivaient avec leur répertoire et emportaient les gens. Sauf que tout à coup, on n'était plus dans une petite salle de 200 personnes, mais... à la Route du Rock, en l'occurrence, où ça aurait pu être en Espagne. Et on s'est dit, bon voilà, ils tournent, tant mieux pour eux, comme tous ces groupes, plus ou moins, au moins ils gagnent un peu d'argent. Et après, on apprend qu'ils font un album, parce qu'on pensait que non, puisqu'il y avait un groupe de Rachel Goswell, la chanteuse, qui a monté un autre groupe pendant ce temps. Mais comme ça, en secret, parce que sur scène, ils jouaient pas de nouveaux morceaux. Et là, arrive cet album, on se dit, bon, est-ce que c'est pas l'album inutile de trop qu'est-ce qu'ils vont apporter? Surtout que, voilà, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur Jesus and Mary Chain. Je trouve l'album du Mary Chain correct, mais j'ai l'impression qu'ils reprennent exactement où ils en étaient. Ils n'apportent absolument rien à ce qu'ils faisaient avant. Et c'est ça qui est un peu dommage, quoi. J'ai pas envie d'aller les voir. Et cet album qui est correct, j'ai pas envie de l'écouter. J'ai les vieux, quoi.
Là, je suis d'accord avec
vous. Est-ce que Slowdive, et après, on va pas parler de Ride, parce que c'est dans un mois, et Ride est juste devenu un très gros groupe de rock très compétent, quoi. Parce que, à force de jouer avec Oasis et des gens comme ça, mais n'ont pas, je trouve, évolué. Là, on retrouve un Neil Halstead, Rachel Goswell et les trois autres. Pardon, mais Arnaud les connaît, qui, un album, alors il s'appelle Slowdive, effectivement, comme si c'était littéralement une renaissance de, on reprend les choses avec toute cette expérience, tous on est parti, on a cherché un peu partout, qu'est-ce qu'on fait maintenant en réconciliant tout ça, ce qu'on était au début, cet art, effectivement, des deux, des trois guitares qui s'empilent, qui viennent, ces montées progressives, dans un disque qui est, même s'il y a une ambiance... total qui se tient totalement, qui est très Slowdive, il est extrêmement varié, mélodiquement riche, mais qui avec toujours cette manière de ne jamais forcer. On l'a entendu là, les voix, ça contrebalance toujours les harmonies de Rachel Goswell, ça se marie, ça revient. C'est-à-dire ce qu'ils avaient. Ce que je voulais dire, c'était que je trouve que les groupes comme les Cocteau Twins, qui étaient énormes à l'époque, ont plutôt mal vieilli, je trouve. Mais je sais que on serait peut-être pas d'accord, mais en tout cas, je n'en attends rien aujourd'hui. Et tout ce qu'il a fait depuis, il n'a jamais réussi à faire mieux que ce qu'il avait fait au temps des Cocteau Twins. Je vais peut-être Cure, malheureusement, j'ai beau adorer Cure, je trouve, et tant mieux presque qu'ils n'enregistrent pas un nouvel album ou n'en sortent pas, puisqu'on a l'impression que
ils
n'arrivent
produire,
pas, quoi, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de nouveau qui enrichirait le son de Cure. Et Slow Dive arrive comme ça, c'était ce qu'on n'attendait pas, avec un disque qui sonne tout à fait d'aujourd'hui, surtout dans une époque où tout ce qu'ils ont fait a été repris par deux groupes, je dirais, pour le meilleur par Beach House, et ils ont le même producteur comme par hasard, et je pense que c'est pas anodin, et je trouve que c'est ça se complète très bien avec Beach House, qui sont inspirés d'eux, et eux montrent qu'ils sont toujours à ce niveau-là, et peut-être pour le pire, et je dirais des groupes comme N83 qui sont un peu tout ce qu'il y a eu de pire, influencé du shoegaze à mon avis. Donc on a un très bon album de Slow Dive qui s'écoute admirablement, parce qu'il n'y a pas ce côté un peu écrasant et répétitif qu'avaient beaucoup de disques de shoegaze à l'époque. Il y a de l'air, il y a de l'harmonie, il y a de la mélodie et de la richesse, quoi.
Alors, l'historique ayant été fait, Olivier Lame, au fait, c'est sur ce disque de Slow Dive.
Je ne vais pas d'abord parler de mon rapport à Slow Dive, parce que je pense qu'il influence aussi ce que je pense de ce disque, puisque je pense que si j'avais été un adepte de Slow Dive, je pense que je serais touché autrement par ce retour. Je reviens juste sur cette idée sur ce titre. Est-ce qu'on peut parler d'une renaissance? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des musiciens qui effectivement étaient tout à fait présents, tout à fait dans les parages. Ce qui, on arrive quand même à un moment très étrange de l'histoire, puisque Mojave 3 a existé deux fois plus longtemps que Slow Dive. Ils ont sorti deux fois plus de disques. Ces gens-là étaient, j'ai envie de dire, disponibles. Ils attendaient qu'on pouvait les appeler au téléphone. Ils pouvaient vous jouer une chanson. Enfin, je veux dire, ces gens-là étaient prêts à. Ils étaient là, disponibles. Et pendant qu'ils étaient là à faire leur disque de Mojave 3, dans l'indifférence générale, il y a une sorte de culte qui s'est monté autour de leur toute petite œuvre. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme si le sujet de ce disque, c'était la musique de Slow Dive, revisitée par Slow Dive 20 ans plus tard. Ce qui est un truc assez étrange, puisque Hugo a cité deux groupes. Slow Dive n'a pas influencé deux groupes, il en a influencé des dizaines et des dizaines, notamment énormément aux États-Unis au milieu des années 2000, et puis ça revient par l'Angleterre et puis par la France. Enfin, je veux dire, c'est quasiment le groupe de cette époque et de cette scène, qu'on a appelé par la suite shoegaze, comme disaient les Anglais, la scène qui s'aime un peu trop, je crois, il y a un truc un peu comme ça, et qui s'est pris aussi le plus violemment le retour de bâton. Mais c'est le groupe qui a été le plus imité, parce que je pense que c'était le plus facile aussi à imiter, parce que c'est celui qui était le plus naïf et dont la musique était la plus simple. Des groupes qui imitent My Bloody Valentine, il y en a eu beaucoup, mais il n'y en a pas un seul vraiment qui assumait cet héritage absolument, parce que la musique de My Bloody Valentine simplement était beaucoup trop complexe, puissante, contradictoire. Moi, il se trouve que mon rapport au shoegaze en général est plus formé, marqué dans ma vie de mélomane par My Bloody Valentine, ou Loop par exemple, ou même Jesus and Mary Chain, enfin le premier album, que par Slow Dive, que j'ai découvert un peu sur le tard, c'est-à-dire au moment où sortait Pygmalion, et que j'ai tout de suite trouvé très ennuyeux, très très bébé, très très juvénile. Et là, il y a quelque chose d'autant plus étrange d'entendre des gens de quasiment 50 ans revisiter une musique qu'on a aimée parce qu'elle était faite par des gens de 20 ans. Je pense à un autre exemple qui est celui des Pastels, qui, pareil, ont sorti un album il y a 2 ans ou 3 ans, après une longue absence. Seulement, les Pastels, ils avaient complètement pris en compte le fait qu'ils avaient 20 ans de plus. Et c'était la musique de gens de 50 ans, c'était pas la musique de gens de 20 ans. Là, on est dans un truc très étrange, d'autant que ce disque-là ne s'insère dans aucune chronologie, dans aucune évolution. Dans les trois disques de Slow Dive, il y avait une évolution qui aboutit à Pygmalion, où il y avait quasiment plus de murs de guitare. Enfin, il y en avait un petit peu, mais on était quand même sur quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, intimiste. Et là, c'est comme si ils effaçaient leur propre œuvre pour donner un peu aux gens ce qu'ils attendent, quoi. Et ça me, du coup, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans cette musique et dans ces chansons. Je note qu'il y a des mélodies, mais tout ça me vraiment, je reste complètement à l'extérieur.
Alors c'est peut-être pour ça, Olivier Lame, que vous prêtez beaucoup d'attention et au groupe et aux gens, parce que je dire que les gens font un groupe pour donner aux gens ce qu'ils veulent, je comprends pas ce que ça veut dire. J'ai jamais compris ce genre
c'est-à-dire
de
non, prend... enfin, non mais on prend, c'est-à-dire que quand on a un groupe qui est devenu un peu culte et qu'on le
j'exposerai plus tard mon point de vue.
Non mais pardon, je dis ce que je veux dire,
non, c'est mais que c'est quand même une formule. Je crois pas qu'on puisse taxer en tout cas ces musiciens là. On les entend les disques cyniques. Alors vous dites qu'il peut pas être cynique et naïf en même temps.
C'est pas une histoire. C'est une histoire de créativité.
C'est un peu compliqué.
C'est pas une histoire.
Ah ben pour moi elle est pleine et entière. Moi c'est vrai que moi j'étais impatient. Pour moi Slowdive c'est pas une petite œuvre. Ce sont des grands disques et de grandes chansons. Vous avez le goût des mélodies simples et des choses simples aussi parfois. Olivier, oui, moi j'aime les chansons enfantines dans le sens de la ritournelle. Et Slowdive pour moi il y a quand même beaucoup de ça dans ce sens mélodique et c'est ce qui me touche, ce qui me touchait, mais ce qui me touche aujourd'hui. Parce que cet album, moi je l'ai écouté évidemment avec un peu d'appréhension, vous pouvez vous en douter, après une aussi longue éclipse. Et de fait, les deux, trois premières écoutes, j'étais comme ça un peu sur la réserve, même s'il y a des morceaux plus évidents comme Star Roving, qui était, je crois, une sorte single, de single, ouais. qui voilà. Mais qui, celui-là, et j'ai dit deux fois voilà, me semble-t-il, à l'instant, ce morceau-là me faisait craindre que le disque soit à son image, c'est-à-dire effectivement. On refait la même chose qu'il y a 25 ans et ça ne m'aurait pas du tout intéressé. Or, ce que j'ai entendu, mais ça, pour ça, il faut les avoir aimés à l'époque et je comprends très bien que ce soit pas quelque chose qu'on puisse, à laquelle on puisse être sensible, c'est que j'ai entendu des voix qui ont vieilli. Ce sont pas des gens de 50 ans qui font de la musique de 20 ans, ce sont des gens de 50 ans qui font la musique avec tout ce qu'ils ont vécu, y compris l'usure de leur corps, de leur voix. Moi, je trouve ça très émouvant, en l'occurrence, parce que c'est pour le coup, ça n'est pas du tout calibré et ça ne répondrait pas à l'attente que pourraient avoir en tête les gens qui se diraient tiens, on va faire quelque chose qui répond à ce que les gens veulent. Vous voyez, c'est ça qui pour moi est un peu problématique.
Quand
vous dites que c'est facile à imiter, je ne crois pas que l'écriture musicale, pour dire un mot qui soit plus français que songwriting, soit quelque chose facile à imiter. Dans la très grande complexité ou dans l'apparente simplicité, je pense qu'ils ont effectivement une écriture dont l'ADN est présent dans ce nouveau disque, mais qui a vécu avec eux, vieilli avec eux.
Je ne perçois pas du tout cette originalité ni ces voix, puisque pour moi c'est quand même un des principes. Alors c'est une des contradictions, on va dire, des principes contradictions du shoegaze, c'est de noyer quand même les individualités, les personnalités dans un brouillard.
Au contraire, on les entend que mieux. Vous entendiez pas la voix d'Elizabeth Fraser dans Cocteau Twins?
Si, mais c'était pas exactement.
Non, mais on la ressentait plus. Pour moi, alors enfin, vraiment, ce sont des voix que j'entends, mais loud and clear, pour parler encore une fois très bien français, je les entends parfaitement et avant et aujourd'hui. Hugo Cassavetti?
Non, pour revenir à ce que je disais, je pense que ce qui les pas les sauve, parce qu'ils ont pas besoin d'être sauvés, mais c'est le fait qu'ils n'aient pas eu cet impact à l'époque. Donc il y a cet effet de découverte et de découvrir que ce son qui peut-être peut paraître d'époque pour Olivier paraît paradoxalement contemporain, puisqu'ils n'ont jamais eu, et c'est toute la différence avec les autres, quand des groupes ont été énormes, je pense qu'on peut prendre un autre cas qui n'a rien à voir avec le mouvement shoegaze, c'est un groupe comme les Pixies, quoi, qui n'arrive pas à intéresser, qui est juste condamné, et je pourrais même un groupe plus récent, qui c'est comme les Kills, qui sont juste devenus des machines à tourner, à relever les compteurs tous les ans, qui n'ont plus aucune magie, plus rien à offrir, à part remplir ils sont pas mieux que la Sebo dans le fond, à part que c'est les meilleurs groupes. Mais alors que eux, en sont à, il y a quelque chose d'assez touchant, de comme s'ils redémarraient, mais effectivement avec leur expérience, avec leur acquis, et je trouve qu'ils ne sont pas que dans le rétro, quoi, vraiment, je pense pas. Bien, par contre, ils ont leur son, leur style, qui se révèle finalement, pour ceux qui n'étaient pas rentrés dedans autant que Arnaud, ils avaient vraiment un style parmi tous ces groupes, quoi.
On ne nous réconciliera pas sur Slowdive, non, Olivier. Mais,
Je pense quand même que tous les questionnements dont vient parler Hugo, ça revient un peu à dire ce que je disais avant, à savoir qu'ils sont pas très à l'aise, je pense, avec leur propre héritage.
L'essentiel, c'est que vous ayez toujours raison, Olivier.
Non, pas du tout. J'ai pas du tout envie d'avoir raison. Et puis, j'ai envie de convaincre aucun fan de Slowdive. Il y en a beaucoup maintenant. Et c'est, mais moi.
Si ce m'aurait pas plu, je vous l'aurais dit, Olivier. J'en aurais été attristé, mais je ne dis que ce que je pense.
J'ai du mal à voir même comment ce disque-là va pouvoir s'intégrer au reste de leur œuvre. Vraiment.
Bah, il y est déjà, hein, je vous rassure. Là aussi, pas d'inquiétude.
Ce qui est intéressant, c'est de voir des groupes qui sont, voilà, considérés peut-être comme mineurs par certains et tout, que maintenant, il y a eu des, on a vu maintenant, on a l'histoire du rock, il y a eu le Velvet Underground, il y a eu les Stooges, il y a eu des groupes comme ça, qui ont acquis ce truc, avec le temps, et tout à coup ont été reconnus, en plus des stats, sont reconnus comme étant les groupes les plus importants. Et je pense que tout le monde a envie, pour peu qu'il y ait un intérêt, de faire ça. C'est de dire, tiens, peut-être que j'étais non pas en avance, mais en tout cas que j'ai raté le coche à l'époque. Et c'est ça, je trouve, qui est assez touchant, c'est qu'ils tentent leur chance. Sauf que chez eux, je trouve qu'il y a quelque chose, une fois de plus, le mot est aussi, oui, il y a quelque chose d'assez touchant, parce qu'on peut pas dire qu'ils nous... Ils s'imposent en rien. Mmh. C'est ça que j'aime bien chez eux, d'ailleurs. Que ce soit sur scène et tout, donc voilà, si on n'a pas envie. Mais il n'y a pas un côté, tout à coup, on est là, oui, on est crédible parce qu'on a estampillé 90, on a fait partie, on est le vrai bois, le bois de la vraie croix et tout ça. Ils sont là, ils continuent, ils auraient pu rester en marge, et là, tout à coup, on s'intéresse à eux, quoi. Mais je ne pense pas que ce soit aussi calculé, et même pas calculé du tout.
Slow Dive, c'est le titre du nouvel album de Slow Dive, qui sort de fait demain chez Dead Oceans.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, Feist et Ryuichi Sakamoto. Mais avant cela, nous suivons Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Grâce à vous, vous allez faire venir l'été, puisque nous allons parler de grands festivals.
Exactement, l'été approche, alors que 80% en effet des festivals ont lieu entre juin et fin août. Eh bien, c'est un article d'Europe 1 qui met en regard deux festivals de rock importants en France, le Hellfest pour le hard rock et le tout nouveau Download, importé de Grande-Bretagne directement dans l'Essonne. Alors, si le Hellfest a mis 10 ans pour franchir les 100 000 spectateurs, le Download l'a fait dès sa première édition. La différence entre les deux, le Hellfest est indépendant, le Download est créé par Live Nation, le plus gros fournisseur de concerts au monde. Derrière ce duel, dit Europe 1, c'est la recomposition du secteur des festivals qui apparaît entre grosses machines calibrées pour plaire et manifestations indépendantes qui tentent de résister. Est-ce la fin de l'indépendance, demande la journaliste. La question peut se poser, en effet, alors que se dessine cette année une nouvelle cartographie des festivals musicaux dans notre pays. C'est Olivier Nuc dans le Figaro qui le dit, cartographie donc dessiné par Live Nation et AEG Presents, aussi un des poids lourds du secteur, qui se concentre tous deux donc sur le spectacle vivant. C'est 80 festivals dans le monde pour Live Nation. Il a acheté le Main Square Festival en 2007, festival de Lille, fréquentation qui a augmenté de 3,5 en 10 ans. Et puis, outre le Download en 2016, Live Nation a créé en 2017 un festival vers Paris, le festival Lollapalooza. Angelo Gopi, qui est le directeur général de Live Nation France, explique le rachat du Main Square en 2007 nous a permis d'engranger de l'expérience. Le Lola et le Download étaient dans des cartons depuis plusieurs années, mais il nous manquait encore l'expérience nécessaire pour que les gens puissent avoir un festival de qualité. Festival étendu aussi, vous l'avez vu, pour Rock en Seine, récemment racheté par Mathieu Pigas 15 ans après sa création, en s'intégrant à LNEI, qui est la structure de Mathieu Pigas. Et bien Rock en Seine bénéficiera de moyens renforcés, continue le Figaro. C'est clair, le paysage se charge et se concentre. Parmi les 11 plus grands événements de musique actuels de France, 5 peuvent encore être qualifiés d'indépendants, dit Europe 1, ceux qui sont gérés par des associations, puisque les autres sont des créations de groupes ou organisées par des agences spécialisées comme Morgan Prod en France. Benjamin Barbeau, qui est le directeur du Hellfest, oppose lui clairement à des investissements français qu'on pourrait dire en soutien à des événements en difficulté. Eh bien, la stratégie prédatrice, ce qu'il appelle la volonté hégémonique de Live Nation. Il faut dire que la tendance est au renchérissement aussi des artistes et que le budget de la plupart des festivals est assez léger vis-à-vis de ça, 3 à 6 millions d'euros, des festivals qui subissent ce qu'on peut appeler le deuxième effet crise du disque, avec des artistes qui veulent se rattraper sur les concerts de la baisse des revenus issus des ventes de disques. Les soupçons montent et pourtant pour le Lollapalooza, avec 60 000 spectateurs dont 15 000 en région parisienne, ce n'est pas avec ça qu'on va vampiriser Rock en Seine, dit Angelo Gopi. Contrairement à ce que j'entends, poursuit dit-il, nous ne payons pas plus cher les artistes pour les accaparer. Même si à 76 euros par jour, eh bien, il peut se permettre de faire venir les Red Hot Chili Peppers, par exemple. De plus, la question de la hausse des cachets des artistes français se pose pour tous les festivals, dit Boris Vedel, qui est le directeur du Printemps de Bourges dans la Croix. Et le Hellfest associatif, lui, est un des festivals aussi les plus chers à la journée. C'est 92 euros, deux à trois fois plus que les autres festivals habituels. Mais c'est une machine qui marche. Le public vient aussi pour le spectacle. Et 1 million de bières sont consommées chaque année. Tous ne sont pas donc forcément dans cette course. Les trois festivals les plus fréquentés sont encore des indépendants. Mais c'est dans les années qui viennent que la différence va se marquer davantage, dit Jérôme Tréorel, qui est le directeur, lui, des Vieilles Charrues. Il le dit au Figaro. Les Vieilles Charrues dont le budget artistique est passé de 1,7 à 4 millions d'euros en quelques années. Alors, il poursuit, c'est le public qui va réguler. Régler, c'est sûr. Va-t-il aussi régaler les majors? En tout cas, s'il y a une concentration économique indéniable et des risques peut-être pour la dépendance, eh bien, messieurs, cela se traduit-il déjà sur la scène?
Sur la scène, alors on parle à la fois de programmation, on parle de ces différents festivals, on peut l'imaginer aussi, je pensais à ça en vous écoutant, comme une sorte de Tour de France, après tout, les groupes peuvent jouer ailleurs, aux Vieilles Charrues à Carré, ils peuvent jouer à Bourges, du côté de Belfort, de Bourges, et tout le monde serait content de voir pas loin de chez soi son groupe préféré. Si tant est que ce soit Red Hot Chili Peppers, mais ça c'est une autre question. Olivier Lame, la concentration, la multiplication de ces grands festivals.
C'est pas Red Hot Chili Peppers qu'on verra le plus sur les scènes de non. France cet été. Il y a, je sais plus quel média a fait une sorte de calcul des groupes qui jouent le plus sur scène. Il y a des groupes qui font jusqu'à 20 festivals. Enfin, c'est absolument, c'est-à-dire que vraiment, en plus, il y a une sorte de normalisation. Je reviens juste sur le nom du festival Lollapalooza, parce que c'est un truc intéressant, c'était un festival américain de référence du rock alternatif dans les années 90, où jouait, je sais pas, Sonic Youth, qui était un festival, si je dis pas de conneries, qui avait été créé par Perry Farrell.
Il est toujours là. Qui est venu faire la promo à Paris pour vendre, en gros, Ariana Grande maintenant.
Parce que je pense que ça intéresse plus aujourd'hui de s'occuper de son festival que de faire de la musique, parce qu'il intéresse fait plus grand monde, Perry Farrell, mais c'est pas le problème. Mais ça dit quelque chose, c'est que ce festival, les festivals comme Lollapalooza avaient une identité. Et là, je pense que la différence aujourd'hui, c'est pas entre les festivals indépendants et les festivals non indépendants, c'est des festivals qui ont une identité et ceux qui en ont pas. Mmh. Et il y a des festivals où les gens se rendent parce que c'est près de là où ils vont en vacances, ou c'est parce que il y a éventuellement une tête d'affiche qui les intéresse. Et puis il y a des festivals où on va comme un rite annuel, c'est le cas du Hellfest. Vraiment, les gens, c'est le festival sans doute qui a le public le plus fidèle. Je vais pas citer son nom, mais mon banquier va régulièrement au Hellfest avec son fils. Je m'en suis rendu compte puisqu'il a.
Vous aurez un meilleur taux si vous citez son nom peut-être, mais
non, je vais pas lui faire ça.
Et parce que c'est un festival familial aussi.
Et c'est un festival familial. C'est évidemment pas du tout le cas de tous ces gros machins qu'on nous impose en région parisienne ou ailleurs. La question, c'est toujours l'offre et la demande. C'est un peu la même question que dans tous les autres domaines, cinéma, la musique, ce que sortent les labels, ce dont on parle dans les journaux. Enfin, tout ça, c'est toujours l'éternel même problème. La question, au-delà de la concentration, du fait que effectivement il y a des groupes auxquels on n'échappera pas dans aucun festival quasiment en France cet été, qui sont d'ailleurs pas forcément des gros grandeurs de disques, mais il y a des sortes de groupes qui fédèrent énormément qui sont des sortes de clous de festivals, j'ai envie de dire. C'est qu'est-ce qui se construit culturellement là-dessus, et je pense que les festivals qui permettent à des scènes, à des niches, à des genres musicaux de se solidifier, de se créer, sont toujours plus intéressants que ceux qui ne font que les exploiter. Voilà. Enfin, tous les festivals ne sont pas Woodstock, mais moi, qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce que raconteront à leurs enfants les gens qui vont à Rock en Seine tous les ans, je sais pas.
Hugo Casavetti.
Il y a tellement de thèmes là à aborder. Ouais. Voilà, on est venu d'une époque, on va dire, il y a 30 ans, où il y avait peut-être un festival par an, où c'était on voyait des groupes qui on ne pouvait voir que là, voire même il fallait aller à l'étranger pour les voir. Et là, effectivement, alors on peut se dire, c'est super, ils sont à tous les coins de rue, à moins de 20 km, ils passent. Ce que moi, je trouve désastreux. En plus, je suis en plein, c'est notre, je sais pas si c'est pareil pour Olivier, un peu le cauchemar du journaliste tous les ans. En cette période, il faut justement faire la sélection, le supplément festival, et on se retrouve juste avec une liste, mais c'est la démultiplication, et surtout avec les mêmes affiches, les mêmes trucs, parce que avant même que ce soit les gros tourneurs qui achètent, non, justement pas les tourneurs, les promoteurs, c'est d'abord, il y avait devenu un monopole de tourneurs, faut savoir, et on se retrouve avec 3-4 festivals, qui viennent, et c'est ce qui fait venir les gens, c'est plus l'exception. Alors maintenant, on cherche, voilà, la surenchère, et là, par contre, c'est l'argent qui joue, c'est qui peut avoir un artiste qui ne sera que là.
Que là.
Et alors, il y en a d'ailleurs cette année, il y a pas mal, il y a Radiohead à Main Square, il y a...
Forcément, ils doivent avoir cette...
Hellfest va avoir Aerosmith, après on peut... Mais voilà,
il faut avoir une sorte d'exclusivité au moins sur un artiste.
A Tribe Called Quest, à Will of Green. Donc chacun, voilà, le combat il est là-dessus. Parce que le reste, c'est la même chose partout. Alors après, il y a énormément de questions, parce que quand on dit que Hellfest c'est familial, oui, mais c'est familial, mais avec une identité propre. Tous les autres, c'est sur l'argument d'être familial et consensuel.
Pas tous les autres.
Oui. Y a pas tous, autres, tous ces gros dont on parle. Moi, c'est ce qui me gêne, c'est qu'on va picorer, on va voir qu'il y a 40 concerts, il y a 5 trucs bien, 10 pas mal, et puis 20 trucs qu'on se dit, mais on n'a pas envie de voir ça, parce que on a un peu d'électro, un peu de variété, un peu de... Et ces artistes, moi, j'ai fait quelques festivals l'année dernière, je suis un peu terrifié de voir que cette année, c'est les mêmes. C'est Naïve New Beater, c'est tous ces trucs. Qu'on les aime ou pas, la femme, les Lilywood, des Jane et tout. C'est-à-dire, même PJ Harvey, que j'adore, elle est en train de finir la tournée, elle est en train de revenir. Ceux qui ne l'ont pas eu l'année dernière, elle revient. Alors, je suis content quand c'est PJ Harvey, parce que ça vaut le coup. Mais je trouve qu'il y a une banalisation de ça, qu'il y en a 3 par week-end. Et ça, c'est assez, moi, je trouve déplaisant, parce que pour revenir, il existe toujours, quand on regarde, là, je me suis penché, il y a des petits festivals, y compris même parfois gratuits, où il y a des programmations assez pointues. Et il n'y a plus de place. C'est comme pour les 10 souvent. C'est qu'à force, il faut toujours parler, ça écrase tout, les gros. Et moi, c'est ça juste qui est gênant. Après, de savoir, à l'arrivée, il faut faire la guerre à Live Nation, pourquoi pas, mais est-ce que c'est mieux que la concentration d'hôtes, de Morgan, tout ça, c'est des guerres de qu'est-ce qu'on appelle, de promoteurs, qui sera le plus puissant et qui payera le plus. Et juste pour finir, prenons un exemple comme un festival qui avait vraiment une identité, c'est la Route du Rock. Et il l'a toujours, sauf que cette année, il se retrouve avec 80% de groupes qui sont déjà passés ou qui passeront la semaine d'avant, la semaine d'après ailleurs. Ce qui est un peu dommage, alors qu'avant, ce n'était que là.
Ah oui, c'était l'événement.
Je trouve que c'est là, c'est ce qu'on a, et puis entre le Pitchfork, les Inoccupables, il n'y a plus ce côté, c'est là qu'on va voir quelque chose. Voilà, c'est ça qui me chagrine, quoi.
Xavier Martinet ?
Oui, peut-être qu'un festival qui a une bonne identité, effectivement, on a peut-être moins besoin de faire cette guerre économique, ou en tout cas cette nécessité de récupérer les grandes têtes d'affiche. Les chiffres ne vous démentent pas, d'ailleurs, les festivals qui accueillent le plus de public, c'est ceux qui ont une forte identité faite de l'humanité et interceltique de l'Orient, que j'avais pas cité.
Oui, c'est vrai. Là, il y a une identité.
Et simplement...
C'est pas que musical.
L'interceltique, c'est sur un mois et c'est dans la rue.
C'est sur un mois. Donc... C'est vrai aussi. Donc, si on compte sur les festivals qui se tiennent pendant quelques jours, pour terminer sur la programmation, c'est vrai qu'en écoutant le directeur du Printemps de Bourges, il affirme que 70% des artistes encore qui sont présents sortent leur premier album, donc il n'y a pas que des têtes d'affiche. Et je termine juste par citer Angelo Boppi, donc de Live Nation, qui promet, on veut que les gens puissent voir les artistes qu'ils connaissent, mais ce n'est pas parce qu'il y a des têtes d'affiche internationales dans nos festivals que la programmation est standardisée. Il promet ainsi des découvertes comme Walk Off the Earth, alors je ne connaissais pas, mais c'est un petit phénomène YouTube, quand même pas tout à fait une découverte. Walk of the Earth.
Ça fait rire Olivier Lame.
Je connaissais pas, non.
Vous connaissiez pas Olivier, non, pris en défaut.
Au-delà de les différences de programmation, c'est drôle, c'est de constater à quel point les gens aussi retournent dans les festivals par rapport à l'accueil, à la disposition, à l'endroit où ça a lieu.
Bien sûr. Comment est le parking?
Non, mais même.
On parle beaucoup plus de ce qu'on y mange, quoi.
Aujourd'hui, c'est les arguments. C'est ce qu'on, effectivement, comment on y mange. Est-ce que c'est facile?
Comme l'été dernier au Bois de Vincennes, le quinoa était bon, on y retournait. Enfin, c'était un peu ça.
Non, mais ça joue vraiment dans des choses. C'est des biens de consommation.
Enfin, ouais.
Juste pour revenir, pour moi, la comparaison que je fais toujours, c'est si vous avez fréquenté les multiplexes de cinéma aux États-Unis, et c'est la musique. C'est censé être Tout ça est censé être quand même célébrer la musique, alors que la musique est traitée comme quelque chose d'anecdotique dans ces festivals.
Par contre, c'est
pas les choses où on entend l'autre groupe jouer en face pour cette scène, mais surtout ce truc, quand on va au cinéma aux États-Unis, on rentre, il y a 47 salles, et les gens rentrent, sortent, bah, tu vois, on va voir la salle d'à côté.
Puisqu'il coûte c'est un moins peu cher, ça, c'est le film.
Les gens rentrent, sortent, très peu de gens sont là, ou alors il y a le fan de tel groupe. Et donc, c'est la musique devient pas, c'est construit autour de la musique et la célébration de la musique. Et on a l'impression que la musique n'est qu'un prétexte pour faire venir des gens à une sorte de foire du trône où il y aurait de la musique en plus, quoi.
Bon, on a hâte que vous nous racontiez vos festivals de l'été. Le deuxième album à l'affiche de cette dispute, c'est celui de Faced, intitulé Pleasure. C'est son premier depuis 6 ans, le 4e dans la carrière de l'auteur, compositrice, interprète canadienne, qui revient plutôt vers les sonorités, les textures de son premier album, Let It Die, qui était paru en 2004, qui avait fait de cette musicienne une pop star, malgré elle, on pourrait le dire, mais ça on va en parler. Avant d'en parler justement, on écoute I'm Not Running Away. Faced est de retour avec cet album Pleasure. Est-ce qu'il vous en a donné, Olivier Lam, du plaisir, cet album de Faced? En fait, déjà une grimace, hein, je donne quelques images aux éditrices et auditeurs.
Non, mais faut dire, je ne sais pas si ça s'est beaucoup entendu dans le morceau qu'on a écouté, que c'est un disque qui joue sur une corde de manière très étrange, puisqu'il y a énormément d'effets de réel. il y a beaucoup de souffle, on entend les amplis, on entend les silences, il y a beaucoup de... il y a comme une sorte de mise en abîme, j'ai envie de dire, de l'enregistrement d'un disque brut. Mais tout ça est extrêmement, évidemment, mis en scène. Et jusque dans le dernier morceau, avec cette porte qui se ferme, on entend ce public. Et je parle souvent du fait de croire ou pas à ce qu'on entend, et du fait, j'argumente beaucoup du fait que la pop musique est une fiction et qu'un disque, c'est une construction. Là, moi, j'entends trop la construction et du coup, je n'arrive pas à entendre les chansons. Comme Feist a eu un certain succès à une époque, notamment dans un certain milieu, voilà, j'aime pas beaucoup utiliser ce mot, mais voilà, dans le 9e arrondissement par exemple, dans les coffee shops, ce genre d'endroit, voilà, il y a beaucoup de d'hommes et de femmes qui aiment beaucoup Feist et qui n'ont pas beaucoup d'autres disques que ceux de Feist à la maison.
Il a des noms visiblement là aussi, c'est comme le banquier, mais il les dira pas.
Non, c'est plus une sorte d'identification socioculturelle un peu floue. Donc je lui en veux et du coup j'ai beaucoup de mal à accéder aux chansons. J'entends vraiment une fan de PJ Harvey qui a sa petite collection de disques des années 90 quand elle avait 15 ans et j'entends rien de plus. Je sais que Hugo aime beaucoup ce qu'elle fait et que
et donc on voilà va donc
je vais
voilà.
Je vais le laisser parler. Vous aurez plus de temps
pour Ryuichi Sakamoto.
Voilà.
Parce que
voilà.
le temps file, voilà. Olivier. Alors, parole à la défense, sachant que
je peux vraiment rebondir ce que vient de dire Olivier, parce que quand il dit Hugo aime beaucoup ce qu'elle fait, jusque-là, je suis à peu près d'accord avec l'analyse. Non. Mais que c'est le premier disque dans lequel je rentre vraiment et que j'aime, parce que je m'y suis intéressé peut-être. On pourra dire ça de tous les disques et peut-être de Sakamoto aussi. Mais de Feist, je n'ai jamais pas aimé, mais j'avais une distance. Pour exactement les mêmes raisons. Et ces raisons-là sont intéressantes à analyser, parce qu'on sait bien qu'il y a une part de bonne et de mauvaise foi là-dedans. Qu'on identifie un artiste à qui les écoute, bien à sûr. Qui les encense. Et j'avais ça. Deuxième point, je n'étais pas spécialement, ça ne pouvait pas être désagréable, les 1, 2, 3, 4, ces tubes. Et c'est ce disque, quand je l'ai reçu, je l'ai mis, c'est un peu, il s'est passé exactement l'inverse. Les autres, c'est des pop songs très agréables. Alors, c'est le paradoxe de Feist, parce qu'elle s'en défend tout le temps. Elle ne comprend pas comment elle est si populaire, alors que ça paraît tellement évident, quoi, qu'elle se retrouve à faire des pubs pour l'iPod et des choses comme ça. C'était à la même époque que Yael Naïm. C'est vrai que ça plaît à tout le monde. C'est pas très difficile. Ce disque-là, la première fois qu'on l'écoute, on se dit, ouais, ça fait un peu forcé. Il n'y a pas de vraie chanson. Et voilà, alors peut-être, oui, parce que j'avais pour la première fois décidé de la rentrer. Donc on réécoute les disques. Il faut toujours une bonne raison pour réécouter un disque, sauf avec des artistes comme ça. Et c'est par les textes, ce qui est assez rare, je trouve que ce disque, je suis rentré dedans. C'est que je trouve les textes ne sont pas bidons, quoi, par rapport à tout ce qu'on disait avant. Et donc je réécoutais ça. Je trouve que ça raconte énormément de choses, de façon assez sincère, assez simple. Aussi, sur simplement toutes les interrogations d'où elle est. Et je me dis, tiens, c'est pas juste la pauvre petite fille riche, c'est horrible d'être populaire. En plus, j'ai pas énormément de sympathie. Ça a toujours été mon problème avec Feist pour, par exemple, Gonzalez. Alors, pour la première fois, il est pas sur le disque. Je ne pense pas qu'il soit mauvais, mais c'est vrai que ça aussi, ça m'a un peu ouvert, quoi. Parce que c'est toute une famille qui, moi, je me dis, c'est un peu trop coffee shop, on va dire, ouais, Paul. Et là, non. Alors il y a la référence, on s'est toujours dit oui, elle se définit comme cette Canadienne proche de Peaches, de Bungle. On se dit oui, mais alors pourquoi elle fait juste cette pop très très plaisante, agréable et accessible. Et tout ce disque parle de ça, c'est son conflit qui est comme si malgré elle, effectivement, quoi qu'elle fasse, elle a quelque chose, comme quand on la rencontre, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est quelqu'un de très liant, de très simple, qui n'a pas de filtre. Et si on revient à PJ Harvey qui est son modèle, c'est à la fois... son handicap, et en même temps, c'est peut-être ce qui la sauve, qu'elle ne fait pas que du sous PJ Harvey, comme tant de filles le font, parce que elle ne peut pas faire ça, et que PJ Harvey, au moment, ce qui me la rend sympathique, c'est que là, elle parle vraiment d'interrogation d'une femme qui va sur 40 ans, qui a, des choses qui fonctionnent pas très bien dans sa vie, que ce soit existentielle ou juste affective par rapport aux enfants, et qui se débat avec cette stature, ce statut de pop star attendu que tout le monde aime, au moment où une PJ Harvey que j'adore, bascule dans le maintenant je vais faire du social, de la politique et tout, que j'adore le dernier PJ Harvey, mais ça me touche moins, si je suis honnête. Elle me parle de choses qui elle essaye, et je trouve qu'elle écrit très bien là-dessus. Toutes ces chansons à double sens, de pleasure qui est A Mile is Not His Song, je trouve que c'est une chanson assez incroyable. Non seulement dans sa rupture et sa construction, mais voilà, juste ça. Un homme n'est pas sa chanson. Et là-dedans, on se dit, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, on est toujours déçu par les artistes parce qu'ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils écrivent, tout en disant, mais tout artiste doit être meilleur dans son art. Et tout est comme ça dans ce disque. Quasiment toutes les chansons ont cette double interrogation. Qui se tiennent, alors ça peut être des lapalissades, je crois pas, et je trouve que c'est assez fort parce que c'est un disque assez varié. C'est vrai que il y a beaucoup plus de ruptures. Je suis trop long, donc j'arrête.
Non, mais c'est parce qu'il va rester 10 minutes pour Ryuichi Sakamoto, morceau compris, et que là Olivier Lam,
et que l'intro d'Olivier en fait 12 sur Sakamoto.
On va déborder, non, on ne débordera pas. Non, mais ce n'est pas trop long, c'est passionnant et vous l'avez fort bien défendu. On va dire, je me situe un peu à mi-chemin de entre vous deux, mais avec quelques morceaux qui m'ont absolument saisi par effectivement une sorte de sincérité que j'ai entendue, un peu rêche et qui m'a plutôt arrêté. Pleasure, en tout cas, le disque de Feist est sorti chez Polydor. Elle sera en concert le 19 juillet à l'Olympia. Et elle, on pourra la voir à Bruxelles le 14 août au Brussels Summer Festival.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute musique de ce soir, c'est donc le nouveau disque de Ryuichi Sakamoto, membre fondateur du Yellow Magic Orchestra, devenu mondialement célèbre avec son rôle et la musique de Furio. Vous vivez cet amour impossible avec David Bowie sous l'œil sadique de Beat Takeshi Kitano. Il a gagné aussi l'Oscar de la meilleure musique pour Le Dernier Empereur. Il a signé la bande son, la bande originale de The Revenant, le pénible film d'Inarritu, il y a 2 ans. C'était une forme de retour. Mais là, il poursuit son travail en solo, 8 ans après son précédent album, après avoir été gravement malade. Il dit aujourd'hui que Async, titre du disque, c'est l'album dont il est le plus fier. Curieuse accroche, on va dire, publicitaire. Quand mon travail de compositeur fut terminé, c'est une citation, et qu'il ne me restait plus qu'à mixer et masteriser mon nouvel album. Une pensée m'est venue, je l'aime trop et je ne souhaite le partager avec personne. Donc, a-t-il eu raison de changer d'avis? On va avoir quelques réponses dans un instant. On écoute un extrait du disque Solari. Thank you. Et Olivier Lam, il lui restera peut-être 4 minutes une fois que Gukla Savetsi, qui m'a demandé la parole en premier, se sera exprimé.
Non, je sais qu'Olivier a beaucoup de choses à dire.
Mais je vais juste dire,
par rapport à ce qu'on disait d'avant, d'abord je remercie l'émission, puisqu'effectivement on a tellement de disques à écouter qu'on ne peut pas y accorder tout notre temps. Et Sakamoto, c'est quelqu'un, je ne maîtrise pas la discographie pléthorique, elle est vraiment pléthorique. Qui part dans tous les sens, depuis le YMO, Yellow Magic Orchestra, ses musiques de films et ses expériences diverses et variées. Et donc c'est vrai que la première fois que je l'ai eu, je l'ai mis le disque comme ça, en me disant ça me touche plus que le dernier Inno. Et simplement d'avoir à le faire, je l'ai réécouté 2-3 fois, je me suis intéressé aux propos, qui n'est pas forcément évident. Et donc voilà, un morceau comme ça, on l'entend à nouveau, sachant le contexte que c'est ce retour après avoir eu ce cancer de la gorge, que c'est un disque, et comme il le décrit, apparemment éminemment important et personnel, quoi qu'il ait pu faire avant, que ce disque est absolument pas monolithique, loin de là, et que derrière tous les concepts qui peuvent paraître, c'est inspiré des films de Tarkovsky, il a repris son complice David Sylvian pour lire des textes, que c'est un disque, on accompagne le mouvement, l'intention de, il nous dit c'est un disque qu'il a pas envie de partager, c'est comme si nous, on va un peu voir tout seul, qu'est-ce qu'il a besoin et envie d'exprimer aujourd'hui par rapport à cette histoire de promenade avec non pas l'amour et la mort, mais encore un espoir de vie encore pour un peu de temps et quand même la mort. Et dans une année où il y a eu de plus en plus, et c'est très différent des autres, des disques qui sont allés du Bowie jusqu'à Leonard Cohen, de disques qui sont entièrement habités, même le Nick Cave, par la mort. Et celui-là l'est aussi, mais de façon assez, sans jeu de mots, assez solaire. Et simplement, on découvre le compositeur, pour moi, Sakamoto, que ce n'était pas un faiseur, producteur, évangéliste de plus, mais quelqu'un qui a énormément de trouvailles et qui est allé réunir un peu tout ça, comme s'il faisait un petit tour d'une œuvre personnelle, comme pour être en paix avec lui-même.
Il reste plus que 3 minutes 15, il va falloir serrer, Olivier. Pourquoi écouter ce disque?
Faut l'écouter, et pas qu'une fois, parce que c'est vrai que c'est un disque qui est pas l'air, il y a des morceaux qui ont l'air d'être pas grand chose, des morceaux avec un son de triangle, passé dans un effet. C'est un disque, je pense, assez important dans l'œuvre de Sakamoto, au moins. Je pense que c'est important en général, mais bon, ça, c'est quelque chose dont on pourrait discuter. Parce que il réconcilie deux aspects de son travail. C'est un expérimentateur depuis la fin des années 70, quand il était pianiste de jazz, et c'est aussi un grand mélodiste qui a surtout composé des thèmes et des mélodies pour le cinéma, mais pas seulement, il a une flopée d'albums pop dans les années 80-90, et aussi un producteur, et là on sent une quête de sens très très fort. Donc il a rassemblé ses pièces autour d'un principe que je trouve très beau, donc ce titre, Async, qui est le monde est composé à 99% de musique, entre guillemets, de son non synchronisé, et l'homme, au milieu de tout ça, essaye de synchroniser les choses, donc il essaye de, entre guillemets, de capturer sans vraiment trop le dominer, une sorte de chaos, et ça s'exprime autant à travers des pièces de cordes que des pièces synthétiques, que des choses mélodiques, que des choses très brutistes, beaucoup d'enregistrements de nature, il s'est enregistré juste en train de marcher dans la forêt, pour fabriquer une œuvre, moi, que je trouve, évidemment, les pièces se répondent, absolument magnifique et extrêmement émouvante, où effectivement il revisite aussi tout un pan de son œuvre. Voilà
qui est fort bien dit. Async, Ryuichi Sakamoto, sorti chez Milan. On conclut avec le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse. Et c'est Boris Pinault qui va se charger de nous donner la question et la réponse.
La question était: par quelle étoile montante de la scène électro-française la bande originale du film De toutes mes forces a-t-elle été composée? Et la réponse est Tilassine.
Et ce soir, des places de cinéma à gagner pour voir un des films de la rétrospective Frédéric Wiseman qui se déroule jusqu'au 31 mai à la Cinémathèque de Toulouse. Quelle est la question, Boris?
Dans quelle université Frédéric Wiseman s'est-il immergé pendant plusieurs mois pour réaliser un documentaire de plus de 4 heures?
4 heures qui passent en un clin d'œil. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur notre site internet concernant cette émission, franceculture.fr, à la page de la dispute, site sur lequel on peut également réécouter ou s'abonner au podcast de l'émission. On vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature. On sera en compagnie de Daniel Martin et Laurent Nunez. À notre affiche, L'Ordre du jour d'Éric Vuillard, paru chez Actes Sud. Dans ce jardin qu'on aimait, de Pascal Quignard, chez Grasset. Et La personne et le sacré, de Simone Veil, en poche chez Rivage. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.